Alors ce soir, le thème, c'est l'introduction à l'épître de Jacques. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière et l'année d'avant, je pense que c'est une introduction plus courte et un peu moins dense que ce que j'avais fait pour Ésaïe et pour Luc. Il n'y aura rien de nouveau, rien de révolutionnaire. Ça va être des petits rappels pour ceux qui connaissent bien la Bible. Et puis pour ceux qui découvrent plus la Bible, eh ben, ça sera peut-être des choses un peu plus nouvelles. La première question que je voulais qu'on se pose, c'est à quoi ça sert de faire une introduction? Pourquoi faire une introduction à l'épître de Jacques? Alors, le collège pastoral a choisi qu'on lise Jacques cette année. Et donc c'est pour ça qu'on parle de Jacques. Hein. Mais à quoi ça sert une introduction? Alors, pour nous, chrétiens évangéliques, la Bible est la parole de Dieu. Et on pense que Dieu nous parle par cette Bible, hein, que Dieu s'adresse à nous, chrétiens du 21e siècle. Mais en même temps, pour nous, la Bible n'est pas un livre magique ou hors du temps. Elle s'inscrit dans l'histoire. On le voit par son contenu. Et on le voit aussi quand on peut faire des liens avec des sciences profanes comme l'histoire, l'archéologie, la critique textuelle ou d'autres choses. Pour nous, la Bible n'est pas un livre magique dans le sens qu'elle n'est pas tombée du ciel ou elle n'a pas été dictée par un ange. Et Dieu, dans sa sagesse et dans sa toute-puissance, il a choisi d'utiliser des hommes qui ont écrit la Bible dans leurs circonstances, à leur époque et avec leur personnalité. D'où l'utilité d'une introduction qui est d'essayer de retrouver autant que possible les circonstances de rédaction des écrits bibliques, comprendre le contexte culturel, les circonstances dans lesquelles se trouvaient les premiers destinataires, qui leur a écrit et d'autres choses. Tout cela, ça nous aide à mieux comprendre l'écrit, donc la Bible, et donc son message, et donc ce qu'il a à nous dire à nous aujourd'hui. Ça, c'était un premier point. Et un deuxième point d'introduction aussi, c'est que j'ai pas jugé utile d'entrer dans les détails des discussions et des arguments d'auteurs qui écrivent sur Jacques, mais qui utilisent des présupposés avec lesquels on n'est pas d'accord. Par exemple, la pseudépigraphie. Alors ça, il y a quand même un mot compliqué. Hein. Alors, pseudépigraphie, c'est quoi? C'est quand on pense que, par exemple, le premier verset de l'épître de Jacques donne le nom de son auteur, Jacques, écrit à... Et puis il y en a qui disent oui, mais c'est pas vraiment Jacques, c'est quelqu'un qui a écrit, mais qui voulait se faire passer par Jacques, pour qu'on l'écoute, pour avoir de l'autorité. Donc nous, les évangéliques, on prend pas ça comme quelque chose de possible, parce qu'on pense que la Bible est vraie, et que si le Jacques se présente comme étant l'auteur, et bien c'est Jacques l'auteur. Donc... je ne trouvais pas utile d'entrer dans des discussions qui expliquent le pour et le contre, de pourquoi ça pourrait avoir été écrit plus tard qu'au 2e siècle et compagnie. Quoi. Je pense que c'est des discussions utiles, mais et d'autres entrent dans ce genre de discussion, mais ce n'est pas forcément utile pour nous ici ce soir. Il y a des livres si c'est des sujets qui intéressent certaines personnes. On n'est pas forcément en dialogue ici avec ces idées. Et puis, ce n'est pas non plus des idées qui viennent troubler notre foi. Et donc, les quelques petits points de ce soir, ça sera surtout ce que j'ai lu chez des auteurs évangéliques. Je n'en ai pas lu beaucoup non plus. Je me suis principalement servi de ce livre. Je ne sais pas s'il est à la bibliothèque, c'est possible. Introduction au Nouveau Testament. Donc, ils prennent chaque livre du Nouveau Testament et puis ils traitent un peu des questions qu'on verra ce soir. Ces deux auteurs... Et un des auteurs est souvent appelé comme orateur à l'Institut biblique de Genève, où il y a aussi Étienne. Voilà, donc Carson et nous. Voilà, et puis ce que je vous propose aussi, c'est d'utiliser ces questions qui peuvent paraître annexes ce soir pour réfléchir et nourrir un peu notre foi aussi. Donc voilà, pourquoi faire une introduction? Alors maintenant, les différents points qu'on va voir. Jacques l'auteur, c'est qui? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Les destinataires et puis la date. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelques caractéristiques de la lettre et de son contenu. Alors là, on ne va pas rentrer beaucoup dans les détails, hein, parce qu'on va le faire pendant toute l'année. Donc, on aura le temps de savourer tout au long de l'année. Et puis aussi, un point qui revient quand même souvent et qui est assez important par rapport à l'épître de Jacques, c'est résoudre l'apparente contradiction avec certains des écrits de Paul. Il y a des versets qui semblent contradictoires, et qu'est-ce qu'on en fait? Et comment les comprendre? Ça, on a déjà vu. Alors, le deuxième point, Jacques, l'auteur. Alors, le premier verset de l'épître de Jacques, voilà. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Donc là, c'est, voilà, il se présente, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a 4 personnes qui portent le nom de Jacques. Alors, est-ce que ça pourrait être un Jacques qu'on ne connaît pas ailleurs dans le Nouveau Testament? C'est peu probable parce qu'il se présente brièvement, donc ça semble être quelqu'un de connu. S'il n'était pas connu, la présentation serait sans doute plus longue. Alors, quels sont les 4 Jacques qu'on trouve dans le Nouveau Testament? Alors, on en voit 3 dans les listes des disciples. Donc ça, c'est un extrait de l'évangile de Luc au chapitre 6. Donc là, c'est Luc qui raconte la vie de Jésus. Vers cette même époque, c'est un extrait donc, hein, vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui finit par le trahir. Alors vous voyez que dans cette liste, il y a 3 fois le nom Jacques. On va les prendre à l'envers. Alors le premier Jacques, il est mentionné parce qu'il est le père de Jude, Jude, fils de Jacques. Et à ma connaissance, il est seulement mentionné ici pour identifier Jude, un des disciples. Il n'a pas de rôle particulier dans le Nouveau Testament. Donc c'est sans doute pas lui l'auteur. Ensuite, il y a Jacques, fils d'Alphée, donc l'avant-dernier, hein. Ça c'est l'un des 12. Donc il est mentionné ici dans d'autres listes des apôtres. Mais l'attention des auteurs du Nouveau Testament ne s'est pas vraiment portée sur lui. Il semble avoir joué un rôle moins important, ou en tout cas pas rapporté, que les 2 autres Jacques. Après Actes chapitre 1, on n'entend plus parler de ce Jacques-là. Ensuite, il y a Jacques, le premier qu'on voit dans notre liste, là, au verset 14. Alors lui, c'est le fils de Zébédée et le frère de Jean. Donc Jacques et Jean, ils sont souvent mentionnés ensemble, et il fait partie des 3 disciples plus proches de Jésus. Jésus, dans certaines circonstances, il a pris 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il n'a pas toujours pris les 12. Par exemple, lors de la transfiguration, lors de la résurrection de la fille de Jaïrus ou à Gethsémané. Après ce Jacques-là, donc le frère de Jean, il est mort assez tôt dans l'histoire de l'Église. Il a été décapité par Hérode et c'est raconté dans Actes 12. Donc, c'est... En raison de sa mort, de cette mort assez tôt, c'est sans doute pas lui qui a écrit l'épître de Jacques. Ensuite, là, je dis qu'il y a 4 Jacques. Là, on en a 3. Maintenant, on va voir quel est le 4e Jacques dont il est question dans l'Ancien Testament. Alors, donc c'est de nouveau un extrait d'un évangile. C'est l'évangile de Marc au chapitre 6. Le jour du sabbat, Jésus se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. D'où tient-il cela, disait-il. Donc ils ont du mal à accepter que Jésus ait un rôle particulier. Donc d'où tient-il cela? D'où Jésus tient-il cela, disait-il. Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Donc c'est des gens qui connaissaient bien Jésus, qui l'avaient vu grandir, qui connaissaient sa famille, et qui du coup avaient du mal à accepter le rôle qu'il prenait, qu'il a pris quand il a eu son ministère sur terre. Et donc là, dans cette liste, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques et qui est le frère de Jésus. Il est question de ce Jacques-là encore dans d'autres passages. Par exemple, quand Paul raconte les débuts de sa conversion, les débuts de son ministère. Donc ça, c'est un extrait de Galates 1, où Paul, l'apôtre Paul, raconte le début de son ministère après sa conversion. Il dit « Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. À part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun apôtre. » Donc voilà, là on a de nouveau la mention de Jacques, qui est à Jérusalem, et qui a été rencontré par Paul à ce moment-là. Et ce Jacques-là, on sait que c'est un des responsables de l'église de Jérusalem au début. Il est mentionné dans Acte 15, et on sait qu'il a eu un rôle important. Et donc, il est le frère du Seigneur. Voilà, c'était le fils de Marie et de Joseph. Alors, il en est question dans le Nouveau Testament, mais ce Jacques-là, il en est aussi question dans l'histoire profane. Et l'histoire nous apprend qu'il était connu et respecté par les Juifs, même par les Juifs non chrétiens. Et la plupart des auteurs évangéliques, les auteurs évangéliques sont tous d'accord pour dire que c'est lui l'auteur de l'épître qui porte son nom. Voilà. Donc je vous propose cette hypothèse-là, si vous voulez creuser d'autres choses, il y a plein de livres, hein. Mais voilà que c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui a écrit cette épître. Le demi-frère, hein, puisque Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph, hein. Mais voilà, ils ont grandi ensemble, ils en faisaient partie de la même fratrie, et ils avaient la même mère. Alors le premier verset qu'on a lu tout à l'heure, Jacques, donc le premier verset de l'épître de Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Si Jacques, l'auteur de l'épître, était le frère de Jésus, pourquoi est-ce qu'il ne le mentionne pas ici? Pourquoi est-ce que Jacques ne met pas en avant ce lien de parenté illustre au début de son épître? Alors, une des pistes, c'est que Jacques... en tant que croyant, avait l'œuvre de l'Esprit en lui, et il avait déjà fait du chemin dans le chemin de l'humilité, et il met en avant ce qui compte vraiment, et le fait qu'il était le frère de Jésus-Christ, c'était pas forcément important pour ses lecteurs ici. Et puis, les deux auteurs de ce livre-là, ils disent que les liens physiques avec le Christ dans l'histoire de l'Église ont pris de l'importance que plus tard. Au premier siècle, ça avait moins d'importance que ce que ça a pris plus tard. Et puis, le fait que Jacques ne se mentionne pas qu'il soit le frère du Seigneur, c'est un des indices qui montre que la lettre devait être assez ancienne et qu'elle date pas du deuxième siècle, parce qu'au deuxième siècle, ils auraient mis ça en avant. Voilà. Et je trouve que dans le fait que Jacques ne se présente pas comme le frère de Jésus, c'est un exemple à suivre. Parce qu'il aurait très bien pu se pavaner, mettre ça en avant. Et c'est un exemple qui nous pousse aussi, nous, à imiter cette humilité. Des fois, bien sûr, nous, on n'est pas le frère ou le demi-frère de Jésus, mais on a d'autres sujets sur lesquels on pourrait s'appuyer pour mettre un peu une petite fierté mal placée en avant. Moi, je connais bien la Bible, moi, j'ai compris ça et ça, moi, je lis la Bible. Enfin, on est vite tenté de... Enfin, chacun a ses tentations. Et ça, c'est l'exemple de Jacques, nous montre que c'est pas ça qui compte. Moi, j'aime bien me rappeler, je me le rappelle pas assez souvent, mais j'aime bien me rappeler ces paroles de l'apôtre Paul qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tout ce qu'on a, on l'a reçu. Et tout ce qu'on met chez nous en avant à la place de Jésus-Christ, c'est pas juste. C'est une piété faussée, une apparence de piété. Et sachons, comme Jacques, mettre Jésus, mettre Dieu à la première place, parce que tout est cadeau, tout est grâce de sa part. Voilà, peut-être une autre raison pour laquelle Jacques n'a pas mis ce lien de parenté en avant, c'est que pendant le ministère de Jésus, Jacques, il n'avait rien compris à qui était Jésus. Ça, on le voit dans deux passages. Là, on est dans Marc au chapitre 3. Donc toujours un évangile. Jésus alla à la maison Et de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener des forces avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. Et donc Jacques était probablement inscrit dans ces membres de la famille-là. Donc voilà, des membres de la famille de Jésus qui n'ont rien compris à ce qu'il faisait, à ce qui se passait avec lui, qui vont même jusqu'à dire qu'il est devenu fou. Et un autre passage dans Jean chapitre 7. Jésus continue à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée où les autorités juives cherchaient à le supprimer. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des cabanes. Ses frères lui dirent alors, « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que là aussi tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voit. » Et le commentaire de Jean par rapport à ce passage-là, « En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. » Donc voilà, du temps du ministère terrestre de Jésus, ils n'avaient pas compris pour qui il était le Messie et pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Et ça nous apprend, ça nous montre que on peut être au contact de la vérité sans être touché par elle. Étienne, encore hier, je crois, il disait ça devait être super de grandir à côté de Jésus. Oui, mais pendant des années, ils n'ont rien compris. Jacques n'a rien compris à qui était Jésus. Il ne croyait pas en lui. Et on ne sait pas pourquoi il n'a pas cru, ça on ne sait pas. Mais on voit, ça montre qu'on a besoin de l'œuvre de l'Esprit pour être touché par la grâce de Dieu, que ce n'est pas simplement de connaître des choses ou de voir des personnes, mais on a vraiment besoin que l'Esprit de Dieu travaille en nous. Et ça peut nous pousser à prier pour ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors il est probable que Jacques se soit converti et compris que Jésus était le Messie après la résurrection. Il y a un passage dans 1 Corinthiens 15 qui parle de la résurrection et où Paul rappelle les éléments de la foi. « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, il a été mis au tombeau, il est ressuscité. » Il est apparu à Pierre, aux 12, à 500 frères à la fois, et au verset 7. Ensuite, donc Jésus ressuscité est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, en se basant sur ce verset, une hypothèse assez répandue, c'est que Jacques s'est converti à ce moment-là, quand il a vu Jésus ressuscité. Bien sûr, c'est toujours, on est dans les hypothèses, mais c'est des hypothèses qui tiennent compte de ce que nous donne le Nouveau Testament. Et ça nous montre qu'il n'y a aucune situation sans espoir. Et sans doute qu'à ce moment-là, quand Jacques a vraiment réalisé qui était Jésus, qu'il était le Fils de Dieu ressuscité, il a relu toutes les années, il a repassé dans son cœur tout ce qu'il avait vu de Jésus, tout ce qu'il avait entendu de Jésus, et puis il a sans doute vu tout ça d'une autre manière. Et tout ce que Jésus avait vécu avec lui, avait dit, avait fait, n'a pas été vain. Parce qu'à ce moment-là, il a pu réaliser, il a pu se rendre compte, relire toutes ces années-là et tout ce que Jésus avait fait avec lui avant, dit avec lui, tout ce qu'il avait vu de Jésus n'était pas vain. Ça a apporté du fruit. J'ai vraiment pensé au verset de 1 Pierre 2, verset 12, qui dit « Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal. » Ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Et entre Jésus et Jacques, je pense qu'il y avait quelque chose de comme ça, que tout ce que Jésus avait fait de bien, tout ce que Jésus avait été auprès de Jacques, ça a vraiment eu du fruit une fois que Jacques a accepté, a compris qu'il était le Messie. Et pour nous, ça peut être aussi une... Ouais.
Comment on sait que ce Jacques-là, c'est le frère de Jésus et pas un des apôtres, et ensuite il est apparu aux autres apôtres.
Ah, dans ce verset-là. Ouais. Je pense que c'est parce que Jacques avait une place importante dans l'église de Jérusalem. On voit dans Acte 15 qu'il prend autorité. Donc, le fait de le mentionner sans préciser, je pense que c'est à cause de ça que les commentateurs disent que c'est lui. Parce que c'était le Jacques le plus important à cette époque-là, quoi. vu que l'autre avait été décapité, puis... S'il y a d'autres questions, vous m'interrompez. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment... je trouve que c'est un encouragement de... On n'est pas Jésus, mais on est appelé à l'imiter et de continuer à faire le bien, même quand les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Je pense que Jésus a... Jacques ne comprenait pas ce que Jésus faisait, mais bien, pourtant Jésus faisait la volonté de son Père de manière parfaite. Donc attachons-nous, et même s'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui nous calomnient, ça peut arriver, ben continuons, parce que ça peut porter du fruit un jour. Et puis ça m'a fait penser aussi à Ésaïe 53 qui présente Jésus comme un homme habitué à la souffrance. Ça devait être lui qui est amour. Ça devait être une souffrance pour lui de voir comment il était traité par ses frères et sœurs. Et je trouve que c'est terrible, ce verset, habitué à la souffrance. Et c'est un petit exemple de ce que Jésus a pu vivre. Donc voilà, c'était 2-3 petites réflexions sur Jacques, l'auteur. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette question,
Hélène? De
Jacques, pardon. Je ne sais plus par cœur, mais c'est tout le passage quand il écrit la lettre, et à la fin, il prend, quand c'est la fin de l'acte 15. Oui, j'ai pas pris toutes les références. À la fin, Jacques se lève et prend la parole. C'est, voilà, c'est le verset 13. Donc Paul et Barnabas qui expliquent ce qu'ils ont fait, l'évangélisation qu'ils ont fait dans les contrées non-juives. Et au verset 13, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit.
Il y a aussi,
donc il met vraiment la parole de conclusion de toute cette discussion, donc ça montre son autorité, quoi. Ouais.
Ouais, il dit aussi le verset 19, puisque tu parlais aussi que tu n'étais pas converti avant, donc il dit là, voici donc ce que je propose, continue à Jacques, ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu.
Ouais.
Donc là, c'est vraiment clair pour que Jacques était converti.
Ah oui, bien sûr, à ce moment-là, Jacques était converti dans acte 15, dans le concile d'acte 15, oui, bien sûr. Sinon, il n'aurait pas pris la parole en tant que responsable de l'Église. Ça va? Oui. On va y venir. Destinataire et date. Une autre question? Alors, au chapitre 5 de l'épître de Jacques, au verset 7, il est question de pluie, les pluies d'automne et les pluies du printemps. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste, mais il paraît que c'est une des caractéristiques du climat de la Palestine. Donc il est probable que les destinataires étaient situés en Palestine. Alors, là, on est dans Jacques, chapitre 5. Quand on lit l'épître de Jacques aussi, on voit que la plupart des gens auxquels il s'adresse étaient plutôt pauvres et aussi à la merci de mauvais riches qui font des affaires. Et ça correspond apparemment à la situation qui existait, la situation économique qui existait en Palestine au 1er siècle. Donc, il est très probable que les premiers destinataires de la lettre vivaient en Palestine au 1er siècle. Ensuite, on voit très bien que Jacques s'adresse à des Juifs. Il utilise l'expression « les 12 tribus dispersées », hein, on a vu dans le verset 1. Ensuite, il prend comme modèle, dans ce qu'il présente, il prend comme modèle des personnages de l'Ancien Testament, sans expliquer le contexte ni qui ils sont. Donc il suppose que Abraham, Rahab, Job, Élie sont connus par les destinataires. Après, il a un style, il s'adresse aussi à des personnes probablement non converties, quand il fustige les riches ou ceux qui font des affaires, en considérant qu'elles font partie de ses auditeurs, ou au moins que c'est son devoir de s'adresser à elles. Et ça, c'est un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament, qui ont pris le soin de s'adresser à toutes les catégories de la population du pays. Donc en fait, tout ça, ça montre que... quand Jacques écrit, il n'y a probablement pas eu encore les non-juifs qui sont rentrés dans l'Église. C'est des juifs. On sait qu'au début de l'histoire de l'Église, ben, tous les premiers chrétiens, c'était des juifs qui étaient venus à Jérusalem. Et on est probablement encore dans ce contexte-là, où il n'y a pas encore eu de non-juifs, ou très peu de non-juifs qui sont rentrés dans l'Église. Ça ne paraît pas être dans la pensée de Jacques à ce moment-là. Et voilà. Alors, quand on lit le livre des Actes, donc il y a les premiers chrétiens, les premiers juifs qui se convertissent, qui deviennent chrétiens. Il faut organiser tout ça, tout le monde est à Jérusalem. Il y a des personnes qui sont nommées pour aider les apôtres dans les tâches matérielles. Une de ces personnes, c'était Étienne. Et Étienne a commencé à évangéliser. Ça n'a pas plu aux responsables des juifs qui l'ont lapidé, qui l'ont tué à cause de ce qu'il disait, à cause de ce qu'il enseignait. Ça, on le voit au chapitre 7 du livre des Actes. Et au début du chapitre 8, on lit « Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. » Dans la lettre de Jacques, au chapitre 5 et au verset 10, excusez-moi, je ne l'ai pas. Voilà, on peut lire. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc, il est question de persécution dans ce verset et dans d'autres aussi. Donc, les jeunes chrétiens juifs ont connu la persécution, ont connu la persécution. Et on pense, enfin, une hypothèse probable, c'est que Jacques écrit à ces premiers chrétiens qui se sont dispersés à travers la Judée et la Samarie après la lapidation d'Étienne. Alors c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui tient le mieux compte de toutes les données du Nouveau Testament. Donc voilà. Donc oui, si Jacques écrit à ces premiers chrétiens dispersés, et ben c'est un écrit très ancien. Enfin, ces auteurs-là et d'autres n'hésitent pas à dire que c'est probablement le premier écrit du Nouveau Testament. Donc lui, écrit avant les évangiles. Les évangiles ont été écrits un peu plus tard, quand il fallait mettre par écrit les paroles de Jésus. Et c'est probablement le premier écrit du Nouveau Testament. Donc voilà, merci Marie-Jo. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ça? Des compléments. Alors, quelques caractéristiques de la lettre. Alors, on a déjà dit que Jacques était quelqu'un qui avait une certaine autorité, et dans sa lettre, ça se sent bien. Jean-Philippe a parlé dimanche dernier là qu'il y avait beaucoup d'impératifs. Et effectivement, dans la lettre de Jacques, il y a beaucoup d'impératifs, il parle avec autorité. Et c'est aussi à cause de ça que certains disent qu'il a le même ton que les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, c'est peut-être une suite de sermons, de petits sermons. C'est l'hypothèse de ces deux auteurs-là. Une suite de petits sermons qui fait la lettre de Jacques. Dans la lettre de Jacques, il y a beaucoup d'images. Et c'est peut-être ça qui fait qu'elle est populaire, qu'elle est bien connue. Par exemple, une source salée ne peut pas donner d'eau douce, une plante qui se dessèche, sa fleur qui tombe à cause de l'ardeur du soleil, les bêtes sauvages domptées par l'homme, enfin il y a plein d'images dans la lettre de Jacques. Alors aujourd'hui on est mercredi dans notre église il y a le patchwork, et la lettre de Jacques c'est aussi un petit peu comme un patchwork. Il n'y a pas de structure précise, c'est plein d'idées qui se suivent. Et une des choses qui montre qu'il n'y a pas de structure précise, c'est que les plans proposés pour l'épître de Jacques sont très différents. Enfin, quand il y a une structure précise, tous les commentateurs retombent un petit peu sur leurs pieds, mais pour Jacques, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, il n'y a pas de structure précise. Et puis ce qu'il y a, c'est que parfois il y a une pensée qui est développée dans une phrase ou deux. Et puis parfois, elle est développée dans un paragraphe entier. Donc des fois, on a quelque chose de tout petit, et des fois, on a quelque chose de grand qui tient ensemble, qui est cohérent. Par exemple, dans le chapitre 5-12, il est question de la parole, une parole vraie, ça tient en un verset. Et puis le développement sur l'importance des œuvres, c'est tout le chapitre 2. Donc voilà, c'est un patchwork, l'épître de Jacques. Des fois, c'est une association d'idées qui semble le faire passer d'un point à l'autre. Une parole vraie dans 5-12, c'est suivi d'un autre style de parole, la prière. Alfred Kuhn relève quelque chose de particulier dans le premier chapitre. Il est question de ceux qui passent par l'épreuve, qui deviennent quelqu'un à qui il ne manque rien. C'est le verset 4 et le verset 5 qui suit, c'est « si quelqu'un manque de sagesse ». C'est comme si le mot « manque » l'avait fait passer d'une idée à l'autre, d'une idée à l'autre. Voilà. Donc, ça c'était un point. L'autre point, c'est que Jacques, il passe d'une idée à l'autre, mais ce qu'on voit dans son écrit, c'est qu'il est nourri. Il est nourri par des choses qui ne viennent pas de lui. Il est nourri par l'Ancien Testament. On a vu qu'il cite des personnages de l'Ancien Testament. Donc il connaît très bien l'Ancien Testament. Il appuie des développements là-dessus. Et puis aussi, il est nourri par l'enseignement de Jésus. Donc quand même, si pendant le ministère de Jésus, il n'avait pas compris qui il était, après, et pendant ou après, en tout cas, il a vraiment intégré l'enseignement de Jésus, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, je ne sais plus quand, Étienne avait parlé de l'épître de Jacques. Il avait distribué des parallèles qu'on peut trouver, bon, vous n'allez pas le lire, hein, mais c'est pour vous montrer comme la liste est longue, des parallèles entre l'épître de Jacques et le sermon sur la montagne et quelques autres textes de Matthieu. Donc, j'ai pas compté, mais il y en a il y en a plus que 20. Donc, je vous en ai pris quelques-uns pour nous donner envie d'aller voir un peu plus loin. Donc, Jacques écrit « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Dans le sermon sur la montagne, on trouve « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur vous. » Donc ça fait vraiment écho, quoi. C'est vraiment le même sujet. « Il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, qu'il ne vous manque rien. » Ça, c'est ce que Jacques écrit. Dans Matthieu, on trouve « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Jacques écrit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. » Dans Matthieu, on trouve « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Jacques écrit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera. » Jacques écrit « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. » Jésus a dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. » Et après, il y a la poutre et la paille. Jacques écrit « Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Jésus a dit « Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui. » Non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc on voit vraiment que ce que Jacques écrit, comment Jacques exhorte, il est nourri, il est rempli de ce que Jésus a dit. Je pense que c'est important à relever, important à noter, qui nourrit notre pensée, nous façonne. Qu'est-ce qui nous nourrit? Est-ce qu'on fréquente suffisamment souvent, régulièrement, le texte biblique? Ou est-ce qu'on a d'autres sources de nourriture et quelle place elles prennent dans notre vie? Soyons comme Jacques et laissons notre pensée être façonnée par la parole de Dieu. Donc voilà Jacques qui est façonné, qui est nourri par la parole de Dieu, l'Ancien Testament ou les paroles de Jésus. Alors après, le contenu de l'épître de Jacques. Là, je propose qu'on voit les titres que Jean-Marc a choisis pour les groupes de maisons de cette année. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'épître de Jacques? On trouve la sagesse comme style de vie. Ça sera le sujet du groupe de maison de la semaine prochaine. La foi n'est vraie qu'en action. Jean-Philippe en a déjà un petit peu parlé dimanche dernier. Les souffrances et ma foi. L'être humain et ses travers. Le favoritisme, c'est un péché. La parole et ses enjeux. Le riche et son pouvoir. L'orgueil et ses limites. la prière, ça marche, le pécheur et le pardon. Voilà des thèmes qu'on trouve dans l'épître de Jacques. Et comme on a dit, il n'y a pas de structure, c'est un peu comme un patchwork, ben, les différents thèmes se retrouvent à différents endroits de la lettre. Je vous propose de passer au dernier point, donc résoudre l'apparente contradiction avec les écrits de Paul. Alors ça, c'est Jacques qui écrit, c'est un texte aussi qui a été lu dimanche. Jacques écrit au chapitre 2, « Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. » Donc ça, c'est ce que Jacques écrit. Maintenant, on va voir ce que Paul écrit. Alors là, c'est dans Romains 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Donc Abraham a été justifié à cause de la confiance en Dieu. Et un verset qui est encore plus clair, c'est dans Éphésiens 2. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors, on est sauvé par les œuvres ou on est sauvé par la foi ? Alors, on va faire un petit détour par Luther. Alors, Luther, donc le réformateur, il a appelé l'épître de Jacques une épître de paille, c'est-à-dire une épître sans valeur ou sans grande valeur. Alors il a eu un vécu très fort, et puis c'est peut-être à cause de son vécu qu'il a dit ça, que Jacques était une épître de paille, et aussi peut-être à cause d'une conception incomplète du message de Jacques. Luther, dans l'épître de Jacques, il a vu ce qu'il reprochait au catholicisme de son époque, et il a vu ce qui lui avait fait tant de mal, le salut par les œuvres, le salut qui dépend de l'action de l'homme. Luther a souffert, et je pense que c'est peu dire, de croire que son salut dépendait de ses œuvres. Et il a été libéré, il a été soulagé, il a été émerveillé le jour où il a compris que le salut est un cadeau de la grâce de Dieu. Et ensuite, il s'est pas arrêté d'essayer de faire connaître cette grâce. Et quand Jacques écrit l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, ben Luther, il n'a pas compris. Et un des premiers points que j'ai envie de retenir de ce que Luther a dit, c'est est-ce que nous, on a bien compris ce qu'est la grâce ? Est-ce que Dieu nous fait le cadeau de nous rendre juste à ses yeux, d'effacer nos fautes, parce que Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix ? Et le Dieu saint, pur, majestueux et tout-puissant, il nous accepte dans sa présence gratuitement. Et ça, c'est ce que Luther avait compris. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours qu'on repasse dans notre cœur, ce qu'est la grâce. Donc ça, c'est quelque chose de positif, je trouve, dans la vie de Luther, d'avoir redécouvert la grâce. Mais quelque chose, j'ai mis Luther nous faire réfléchir, je pense qu'il ne faut pas le suivre dans ce qu'il a dit sur l'épître de Jacques. Parce qu'à un moment donné, il n'a pas voulu ou su ou pu écouter Jacques. Et quand il dit que la lettre de Jacques est une épître de paille, il se place au-dessus de la Bible. Et il fait un jugement sur la lettre de Jacques qui montre qu'il se positionne au-dessus. Au lieu d'essayer de comprendre, au lieu de chercher plus, enfin après je ne sais pas, il a peut-être essayé de chercher un jeu. Mais la bonne attitude, quand on ne comprend pas une parole de la Bible, c'est de dire... de se placer avec humilité devant Dieu, de dire qu'on ne comprend pas, ou peut-être d'y revenir plus tard, mais de pas de dire ça, je le mets de côté, ça ne m'intéresse pas, ça non. Non, on n'a pas trié dans la Bible ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse pas, ce qu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas. Il y a peut-être des temps pour découvrir certains textes, mais pas nous se positionner au-dessus. Et donc attention au danger de sélectionner ce qui nous plaît dans la Bible, ce qui nous convient. Ça va? J'ai pas peur. Alors, une hypothèse. Donc, certaines personnes pensent que la lettre de Jacques a été écrite après le Nouveau Testament. C'est pas l'hypothèse que nous on garde. Pour répondre à Paul, pour contrer un petit peu Paul. Alors, on n'adhère pas à ces reconstitutions pour différentes raisons. Parce qu'une des raisons, c'est qu'on pense que Dieu est cohérent et qu'il va, sur un sujet aussi important que le salut, il ne va pas dire une chose et son contraire. Mais ces deux auteurs-là, j'ai trouvé un petit truc intéressant quand même. C'est qu'ils n'excluent pas que le développement de Jacques soit en partie une réponse à Paul. Alors, pas une opposition à la théologie développée par Paul, mais une réponse à une vision déformée et parcellaire qui serait parvenue à Jacques par des personnes interposées et avant que Paul et lui aient pu se rencontrer et se mettre d'accord. Donc c'est une hypothèse, hein, on n'est pas sûr, mais peut-être qu'il y a des gens qui avaient entendu Paul prêcher et puis qui disaient « Oh, mais les actes, c'est pas important, ce qui compte, c'est la foi » et qui du coup minimisaient l'importance des actes. On pouvait mal utiliser les propos de Paul pour justifier de faire n'importe quoi, que les actes, le comportement ne comptent pas, pour justifier un laxisme dans le comportement. Peut-être que Jacques répond à ça. Alors c'est vrai qu'on pouvait utiliser les propos de Paul, qu'on pouvait les déformer, et c'est vrai qu'on peut encore toujours le faire aujourd'hui, malheureusement. Du coup, trop compter sur la grâce et de ne pas comprendre l'importance des actes, ben, c'est un danger qui nous guette, nous aussi. L'importance d'avoir un comportement juste et droit est primordiale. Et Paul ne dit pas le contraire, hein. En fait, Jacques et Paul, ils n'ont pas exactement le même langage. Ils parlent d'œuvre, ils parlent de salut, ils parlent de foi. Ils utilisent les mêmes mots, mais ça ne recouvre pas tout à fait les mêmes réalités. Dans la construction de leur pensée, les mots n'ont pas exactement le même rôle. Alors là, donc Paul, lui, s'intéresse au mécanisme du salut. Et il veut casser les illusions d'un légalisme qui serait efficace. C'est-à-dire que il y a des gens qui pensaient « il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et si on fait ça, on est sauvé. » Et Paul, il s'élève là contre et il dit « non, le salut, c'est un cadeau de Dieu. Les œuvres de la loi ne sauvent pas, c'est la grâce qui sauve. » Donc ça, c'est le propos de Paul. Et Jacques, lui, il s'intéresse aux conséquences du salut. Quand on est sauvé, la foi doit être visible, elle doit se voir et elle doit se manifester concrètement. Les œuvres ne sont pas ce qui cause le salut, mais elles découlent du salut. Et s'il n'y a pas d'œuvres, ça montre que le salut, en fait, n'est pas là. Le salut se manifeste par les œuvres de la foi. Et Paul, il n'est pas contre cela. Paul, il dit la même chose. Il dit, dans Éphésiens 2, en réalité, c'est lui qui nous a fait, donc c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les œuvres, elles sont aussi présentes dans la théologie de Paul comme une conséquence du salut. Et il y a plein d'autres passages qui le disent, dans le titre, pareil, c'est dit plusieurs fois. Dieu voulait faire de nous un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Donc voilà, et ce que va faire Jacques dans son épître, c'est donner des exemples de ce qu'est une foi cohérente. Et donc pendant toute cette année, eh ben, on va s'appliquer à voir quels sont ces exemples et à essayer à demander à Dieu de nous aider à répondre aux exhortations qu'il nous fait par l'intermédiaire de Jacques. Oui.
Si j'ai bien suivi, Jacques aurait écrit au début des Actes. Or Paul se convertit plus tard. Alors est-ce que ça ne pourrait pas être aussi Paul qui reprécise les propos de Jacques qui sont utilisés à mauvais escient? Parce que là tu disais que Jacques, oui, oui. Vraisemblablement c'est Jacques qui répond à Paul, mais si j'ai bien compris, Jacques l'aurait écrit après la persécution d'Étienne, oui. C'était encore Saul et pas Paul. Enfin,
je pense que c'est une bonne question et je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne l'ai pas trouvé non plus, ils ne parlaient pas comme ça, eux qui ont un peu plus étudié que moi. Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse à cette question? Est-ce que Paul répondait à Jacques? Ouais.
C'est très difficile, je pense que la meilleure réponse est de dire qu'on ne sait pas, à notre niveau de connaissance, il me semble, parce qu'ils ont été contemporains, c'est sûr. De là à dire que Paul a eu sous les yeux la lettre de Jacques ou les écrits de Jacques, c'est difficile. Ceci dit, Paul a eu affaire à Jacques, peut-être de manière indirecte, on est livré à des conjectures.
Ouais.
d'une part. D'autre part, je veux quand même dire que
tu veux le micro.
Non. Le propos de Jacques sur les œuvres, quand il cite Abraham, c'est pas pour dire qu'Abraham a ensuite fait des bonnes œuvres suite à sa foi, c'est qu'il a manifesté sa foi de manière concrète. Parce qu'il a il a accepté d'aller jusqu'à donner son fils. Donc c'était pas une œuvre, ça rendait service à personne et surtout pas à son fils d'ailleurs. Donc on peut pas dire que c'était une bonne œuvre, une manifestation d'amour. Il allait le tuer. Mais en revanche, il montrait que sa foi, il était prêt à la mettre en œuvre. Et c'est peut-être là la différence entre le propos de Paul qui dit qu'on manifeste la foi qu'on a en agissant pour le bien, en obéissant à Dieu par des œuvres bonnes. Et puis le propos de Jacques, il dit, ta foi, si tu dis que tu l'as, il faut que ça se voit. Il faut que tu la manifestes, tu sois prêt à la prouver par tes actes. Oui. Peut-être deux approches différentes qui font en somme que Jacques et Paul ne se contredisent pas. Est-ce qu'ils ne disent pas les mêmes choses? Il me semble, je ne sais pas.
Oui.
Quant à dire qu'ils se répondent l'un à l'autre.
Oui, après.
Difficile.
Ouais. Pour répondre à toi, Magali, peut-être que... l'hypothèse des deux là, c'était avant que Jacques et Paul se rencontrent. À un moment donné, Jacques et Paul se sont rencontrés et se sont mis d'accord.
Alors je disais pas que Paul répondait à Jacques, mais qu'il recadrait des propos de Jacques qui étaient utilisés, comme tu disais, les propos de Paul auraient été utilisés ou retransmis par des chrétiens, dans l'autre sens, sans qu'ils se soient vus, sans que ce soit l'un contre l'autre du tout, mais juste qu'il apporte un complément, un recadrage. Des propos qui sont utilisés par les chrétiens de l'époque.
Bon, ce qui est sûr, c'est que Paul, il répondait à des gens qui connaissaient l'Ancien Testament et qui s'appuyaient dessus pour mettre en avant le légalisme, quoi. Donc, c'est pas exactement ce que Jacques écrit. Parce que Jacques, il propose pas c'est des conséquences du salut, quoi. Je suis en train de m'embrouiller. Par rapport à l'amour, Abraham, quand il a donné son fils, je pense que c'était pour montrer qu'il aimait Dieu, quoi. Plus que son fils. Moi, je vois ça comme ça. Tu voulais rajouter encore quelque chose, Jean-Marc, quelqu'un? Alors, je vous propose deux conclusions. Une grande et une petite. La première conclusion, c'est une reprise des différents points de réflexion qui ont été un petit peu abordés au cours de ces quelques propos. Donc, simplement pour qu'on se remette en mémoire ce que vous avez entendu, ce que j'ai essayé de dire. Un des premiers points pour nos vies de réflexion, c'est que Jacques se présente comme le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'a pas mis en avant le fait qu'il était le frère du Seigneur. Et pas de fierté insensée. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à vivre ça, de plus en plus et de mieux en mieux. Ensuite, le fait que Jacques ne croyait pas au ministère de Jésus, avant la résurrection, que ça nous invite à prier pour nos proches et à être persévérants, pour qu'il voit nos bonnes actions et loue Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Ensuite, quand on a vu le contenu de la lettre de Jacques, on a vu que Jacques avait intériorisé la parole de Dieu, tant l'Ancien Testament que les paroles de Jésus, et que ça nous pousse à nous nourrir toujours davantage de la parole de Dieu. J'ai un tout petit peu évoqué Luther, un point à imiter, un point à éviter. En raison de sa découverte de la grâce de Dieu, Luther a été choqué par cette épître. Et deux questions. Est-ce qu'on a compris ce qu'est la grâce? Et est-ce qu'il nous arrive de nous placer au-dessus de la Bible et de la juger ou d'en juger certaines parties? Voilà, les conclusions de la conclusion. Donc, écoutons Jacques qui nous appelle à la cohérence entre ce que nous disons et croyons et notre vie au quotidien. Est-ce que ça te va, Jean-Marc, si je formule comme ça? La cohérence entre ce qu'on dit et notre vie. Par rapport à... Ouais. Non, parce que j'ai pas tout à fait compris la différence que tu faisais entre ce que Paul disait et Jacques disait. Mais c'est pas grave. Comme disait Magali, on a toute l'année pour voir ça. Alors, ce qui a été choisi comme titre, justement, à cette année, en pensant à l'épître de Jacques, c'est « Aujourd'hui, j'obéis ». Alors voilà, mettons-nous au travail et puis aujourd'hui, obéissons. Et je vous invite à vous engager dans ce qui a été écrit ici en chantant le chant 276, Nous sommes au Seigneur.